Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippe Arrojo. Moi-même expatriée pour la troisième fois, en ce moment en Angleterre, j'ai décidé de donner la parole aux francophones expatriés à travers le monde pour qu'ils nous parlent de l'expatriation vue de l'intérieur et surtout, loin des clichés. Quelles sont leurs réussites? Quels obstacles ont-ils surmontés? En quoi l'expatriation les a changés pour la vie? Que vous soyez déjà expatrié ou candidat au départ, vous trouverez dans ce podcast des témoignages inspirants et des conseils avisés pour bien s'adapter et se réaliser à l'étranger. Expat Heroes. S'adapter, se réaliser à l'étranger. Vous écoutez l'épisode 59. Caroline Deville est devenue conseillère en allaitement à distance. Elle vit à Houston, au Texas, depuis 5 ans et elle a des clientes aux quatre coins du monde. Comment est-elle passée de médecin généraliste à Bruxelles à conseillère en allaitement aux États-Unis? Comment l'expatriation a-t-elle changé sa vision de la maternité? Caroline nous fera aussi voyager avec sa voix et avec ses mots à Houston avec des anecdotes amusantes. Voici un bel exemple de création d'une activité nomade à l'étranger dans le domaine de la santé, tout de suite dans Expat Heroes. Bonjour Caroline.
Bonjour Christina.
Il y a 5 ans, avant de suivre ton conjoint en expat aux États-Unis, tu as dit « Il est hors de question que je me retrouve maman au foyer ». Aujourd'hui, tu es conseillère en allaitement, grossesse et naissance. Tu étais médecin généraliste en Belgique. Quel a été le déclic pour te spécialiser dans l'allaitement, grossesse et naissance?
Alors en fait, c'était purement opportuniste. Je vais être très franche. je suis vraiment tombée dedans tout à fait par hasard. En fait, quand je suis arrivée sur place, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Et pour amuser mes copains en Belgique, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas aller faire aux États-Unis alors que ton diplôme de médecin n'est absolument pas valable ?» Je leur disais « Je vais acheter un bus et je vais vendre des frites et je vais faire une baraque à frites. » Ça faisait bien rigoler tout le monde. Alors, en arrivant sur place, quand je rencontrais des gens, je me présentais. Je disais « Voilà, je suis Caroline, je suis médecin généraliste. J'ai envie de faire un projet ici, mais je ne sais pas quoi. » Et donc, voilà, j'ai vraiment rencontré plein de gens comme ça jusqu'à ce que je tombe sur l'une de mes voisines qui me dise « Ah, mais tu sais, je connais une infirmière qui était dans le même cas que toi. » Qui a fait ça, 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 et qui a fait une certification en allaitement. Et là, en fait, ça m'a tilté, parce qu'en Belgique, je travaillais beaucoup avec les nouveau-nés, les nourrissons, les enfants. Je me suis dit, tiens, en fait, c'est aussi un petit peu ce que je faisais avant. Et donc, je me suis renseignée sur cette fameuse formation pour être conseillère en allaitement certifiée par l'IBCLC. Quand j'ai vu que, d'une part, je ne devais pas refaire de stage et qu'il ne fallait qu'entre guillemets que je ne fasse que des heures de cours en ligne, je me suis dit, ah ben ça c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut, ça ne va pas me demander trop d'investissement, même si ça va quand même m'en demander, mais ça ne va pas non plus être 2 ans d'études pour refaire une certification, et en plus ça va être une certification internationale. Donc autant l'allaitement était un sujet qui m'intéressait, mais sans plus, parce que pour moi à l'époque on allaitait 3 mois et puis c'était bon comme ça, et puis les problèmes d'allaitement pour moi c'était naturel, il n'y en avait pas trop. Donc c'était très opportuniste, parce que ça m'arrangeait bien sur le moment. J'ai adoré cette formation en fait, j'ai vraiment adoré et je suis tombée dedans, j'ai découvert plein de choses, je me suis dit mais enfin elle était 3 mois, c'est non, c'est plus, enfin, c'était une formation qui nous donnait plein d'études scientifiques, enfin, c'était passionnant quoi. Et donc je suis vraiment tombée dedans par hasard et ça m'a plu un peu.
Donc ça a été un atout ou pas d'être médecin généraliste? Ça a été un atout pour toi?
Ça a été un énorme atout pour moi parce que, en fait, dans l'allaitement, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait de la médecine interne, qu'il y avait de la médecine générale et que tout ce que j'avais appris pendant mes années d'études, ben, en fait, comme en médecine, il y a des spécialités, hein, pneumologue, oncologue, etc. Eh bien, en fait, pour moi, il y a une spécialité qui est l'allaitement, qui est vraiment une spécialité en soi parce qu'en fait, il peut y avoir un problème de thyroïde, il peut y avoir un problème de diabète. Il peut y avoir en fait plein de problèmes de médecine interne au niveau de l'allaitement. Et donc, ça a été clairement pour moi un atout. Et je pense que grâce à ça, j'ai compris des choses beaucoup plus en profondeur, en fait.
Quelles ont été les étapes pour passer justement de médecin généraliste à conseillère en allaitement? Tu évoquais la formation. Ça a pris combien de temps? Est-ce qu'il y a eu vraiment des jalons pour devenir conseillère en allaitement?
Oui, il y a clairement eu des jalons. Donc, j'ai repris cette formation en ligne pendant un petit peu moins de 6 mois, le temps que je la termine, que je passe l'examen. que l'examen soit approuvé, que je sois certifiée, que je reçoive les papiers. Donc, ça a pris de janvier à novembre, donc un tout petit peu moins qu'un an. Donc, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Et ensuite de ça, ben, il a fallu que je m'installe après ça en tant que conseillère en allaitement. Et donc là, pour m'installer, je me suis fait coacher, en fait.
D'accord.
Parce que ben, j'étais à Houston, c'était pas ma langue, c'était pas ma culture. Enfin, au début, quand on arrive, on ne connaît personne. Et comment démarrer sa patientèle à partir de rien, en plus de ça, dans un pays étranger? Enfin, c'était un fameux challenge. Et donc, vraiment, pour m'aider à me lancer dans ma pratique, parce qu'en plus, ben, en sachant que je suis expat, que j'allais bouger, donc à quoi bon se faire une patientèle sur Houston alors que quelques années plus tard, on sait qu'on va bouger. Donc, c'était vraiment très compliqué comme deuxième étape pour moi de me dire, mais OK, j'ai le papier, mais je fais quoi maintenant? Et donc, je me suis fait aider, je me suis vraiment fait coacher et ce coaching m'a vraiment permis de me poser, de voir ce que je voulais vraiment faire et de comment je pouvais investir dans cette profession à long terme.
Et emmener donc un métier en fait avec toi. Hein. On parle souvent de carrière nomade, c'est vraiment ça, te construire une carrière nomade. Si jamais tu partais des États-Unis, de pouvoir emmener ce job-là avec toi et le continuer.
C'était exactement ça le dilemme. Et comment emmener des consultations presque médicales, si je peux dire ça comme ça, en portable, en nomade. Enfin, moi, ça me paraissait juste impossible. Et bon, voilà, on a posé les choses avec une des coachs que j'ai rencontrées. Ça m'a pris une deuxième année pour réfléchir, pour me lancer et vraiment, voilà, bien débuter, quoi. Ouais.
Merci pour ce partage parce que souvent on voit hein, des personnes qui se sont lancées, on se dit waouh, comment elle a fait, ou alors nous-mêmes on se lance et on se dit mais mince, ça va pas assez vite. Mais en fait, ça prend du temps, tout prend du temps. Déjà la prise de conscience et ensuite on va mettre en place les choses au fur et à mesure. Donc tu as commencé avec une patientèle au niveau local et après, donc comment on fait pour développer sa patientèle au-delà des frontières en fait?
Vive les réseaux sociaux, hein. C'est vrai qu'on est à l'heure des réseaux sociaux qui ont un pouvoir absolument extraordinaire. Donc c'est vraiment via les réseaux sociaux. J'ai ouvert un blog, donc en fait j'ai commencé par être blogueuse en fait, et cette vie de blogueuse m'a amené mes premières patientes à travers le monde, si je peux dire ça comme ça. Et puis petit à petit, les premières patientes arrivent, et puis à un moment donné il y a un effet bouche à oreille.
Ouais.
Donc il y a vraiment une première étape qui est quand même assez longue, lente, où finalement on blogue beaucoup pour avoir peu de patients au départ. Et puis au final, petit à petit, ben, l'effet boule de neige commence à faire son chemin. Donc c'est vrai que, comme tu disais, il faut vraiment être patient. Ça demande un investissement professionnel, mais un investissement personnel. Et je me suis beaucoup, pour en arriver là, il a fallu que je me développe d'abord beaucoup personnellement aussi. Enfin, ça a été toute une remise en question de vraiment plein de choses. Donc c'est vrai que c'est se donner du temps. Pour moi, ça a été de me donner du temps, de me poser et alors de me faire coacher pour vraiment avoir un soutien derrière moi, vraiment avoir quelqu'un qui me dit que tout est possible, quoi.
Ouais, parce qu'on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, mais cette solitude-là, elle est encore plus intense en expatriation.
Elle est très intense du fait qu'on soit là, on est loin de notre famille, de nos amis. En plus de ça, c'est pas notre langue. Donc, on est vraiment seul chez soi à essayer de travailler en se disant, bon, je commence par quoi?
Ouais, on est son moteur de motivation. On fait tout. Hein. Il y en a qu'une équipe, un graphiste, un développeur, un community manager. Nous, on est tout à la fois et en plus, on est maman et
c'est ça.
Faut gérer le reste.
Exactement.
Alors, revenons à ton activité. Donc, du coup, tu accompagnes des patientes à distance, donc sur l'allaitement, sur la grossesse, sur la naissance. Comment on fait pour accompagner des personnes à distance, hein? C'est pourtant un sujet très intime où le regard, le toucher sont importants. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant du coup?
Alors, il y a un tout petit côté parfois frustrant, mais finalement pas tellement, parce que la technologie actuelle nous offre tellement de manières de faire que finalement, on s'en sort très, très bien. Donc moi, par exemple, je fonctionne par consultation Skype. Et en fait, finalement, quand je vais à la maison chez une maman ici à Houston, par exemple, je prends l'exemple d'une consultation d'allaitement, je prends toujours avec moi ma poupée.
D'accord.
Même à domicile, je travaille en miroir avec la maman. C'est pas moi qui vais positionner, par exemple, son bébé au sein. Je veux qu'elle arrive à positionner son bébé au sein toute seule. Parce que si moi, je le fais à sa place, elle ne saura plus le refaire après, parce que ce n'est pas elle qui l'aura fait au départ. Et donc, oui. De toute façon, à la base, je travaille en miroir avec ses mamans à domicile. Et donc, en fait, je fais exactement la même chose par Skype avec ma caméra. Donc ça, c'est une première manière de fonctionner. Une deuxième manière de fonctionner, eh bien, c'est un petit peu c'est ce qu'on appelle maintenant, il y en a quand même de plus en plus, ça devient un peu à la mode et je pense que ça va devenir de plus en plus développé. Ce sont les accompagnements virtuels. Donc, par exemple, j'ai moi-même enregistré des capsules vidéo sur lesquelles j'explique plein de choses, sur lesquelles je donne des exercices à faire aux mamans, etc. Et donc, en fait, de chez elles, les parents peuvent regarder ces capsules vidéo auxquelles ils ont accès.
D'accord.
Et donc, cheminer de leur côté à leur rythme. S'ils ont des questions, eh bien, je reste disponible. Moi, par exemple, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai créé un groupe Facebook secret où pour mes patients, eh bien, ils peuvent poser leurs questions sur ce fameux groupe Facebook. Donc en fait, voilà, on met en place des stratégies pour justement éviter ces frustrations et franchement, avec des super résultats en fait.
Ouais.
Et par exemple aussi, une manière, quand j'ai une consultation par Skype, alors c'est quelque chose que je ne faisais jamais en Belgique quand j'étais en consultation, mais ici par Skype, je propose toujours qu'on se tutoie.
Ouais.
C'est une manière pour moi d'enlever la distance en fait et du coup d'être un peu plus intime, d'enlever un petit peu cet écran. Qui a devant nous. Donc, je trouve qu'au final, on s'en sort très, très bien.
Oui, tu t'en sors très, très bien puisque tu as su donc développer ton activité au fil du temps. Hein, 5 ans déjà que tu es arrivée à Houston et tu enseignes aujourd'hui ce que tu as appris au corps médical.
Oui.
Alors, est-ce que ce changement répond à un besoin de développement personnel de ta part ou c'est vraiment, tu dirais, une évolution naturelle de ton activité, de ton business?
Mais c'est marrant, mais je dirais un petit peu les deux. Alors, quand j'étais médecin en Belgique, dans ma tête, je n'allais pas être médecin toute ma vie en cabinet médical. Et je m'étais toujours dit, médecin, enseigner, ça me plairait vraiment bien. Voilà, c'est vrai qu'être devant un groupe et expliquer des choses, c'est quelque chose dans lequel je me sens à l'aise et que j'aime bien. Et donc, c'est vrai que je m'étais toujours dit, bah tiens, quand j'aurais pris un peu d'âge, je serais enseignante. C'est vraiment ce que j'avais en tête il y a 5 ans, en fait. Et finalement, bah, maintenant, c'est vrai que j'enseigne aux professionnels de la santé. Et c'est marrant parce que c'est venu naturellement dans le développement de mon entreprise.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment un mix des deux petit à petit. Et je me suis dit, en fait, je vais me lancer. Enfin, pourquoi attendre? Je peux le faire maintenant. C'est quelque chose que j'aime bien et ça va tout naturellement dans le développement de ce que je suis en train de faire. Donc, donc voilà.
Est-ce qu'on est venu te chercher ou est-ce que c'est toi qui as répondu à un besoin que tu avais de transmettre ce savoir-là pour faire bouger les choses aussi, hein? Parce que tu ne pouvais pas être partout pour éduquer à l'allaitement.
Tout à fait, exactement. En fait, c'est vraiment moi qui me suis lancée toute seule, un peu sur un coup de tête.
D'accord.
Et en fait, sur un coup de tête, je pense que c'était après avoir reçu une patiente par Skype qui avait vu son médecin ou sa sage-femme ou sa doula ou je ne sais plus qui lui avait dit « Mais non, madame, il n'y a rien, tout va bien, etc. » Or, ça n'allait pas. Et je me suis dit « Mais j'en ai marre d'avoir ces professionnels de la santé qui racontent n'importe quoi sur l'allaitement. Ça ne va pas du tout. Eh bien, je vais leur expliquer comment ça fonctionne. » Et de là, en fait, pouf, je me suis lancée, quoi. Parce que vraiment, toutes les patientes que j'avais, en fait, chaque fois, elles venaient vers moi avec des mauvaises informations. Elles avaient déjà vu un ostéo, une sage-femme, un médecin et ils disaient tous des choses différentes. Et ça m'énervait, en fait. Et donc, voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée un peu par hasard et un peu sur un coup de tête que j'ai lancé ces formations.
Tu as accompagné énormément donc de femmes hein, sur l'allaitement, la grossesse et la naissance. Devenir mère à l'étranger, c'est compliqué, mais pas impossible. Hein. On a des éléments qui nous viennent en tête, hein, la barrière de la langue, la solitude, les différences culturelles. Est-ce que tu aurais des belles histoires de femmes que tu as accompagnées à nous partager?
Ben oui, en fait, j'aurais envie de dire un petit peu toutes les femmes que j'ai accompagnées à l'étranger. Je pense vraiment à celles qui ont donné naissance, qui sont devenues mamans vraiment à l'étranger, parce que voilà, c'est quand même pas évident, il y a la barrière de la langue, c'est pas la même culture, c'est des manières de faire, etc. Et en fait, j'ose croire modestement que chez ces femmes-là, j'ai réussi peut-être à faire diminuer le taux de césarienne chez ces mamans-là et d'augmenter le taux d'allaitement chez ces mamans-là, parce qu'on est très vulnérable en fait à l'étranger. Hein. Ouais. On est encore plus vulnérable, donc je pense qu'on est encore plus à risque à ce que de se faire un petit peu embrélificoter par certains professionnels de la santé qui ne sont pas toujours bienveillants ou pas toujours bien informés sur ces sujets-là. Je n'ai pas une histoire en particulier, mais je pense un peu à toutes ces belles histoires ou de ces mamans qui me disent « Ah, mais c'est génial, je n'ai pas eu de césarienne, j'ai réussi l'allaitement. » Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui me réjouit, en fait. Et donc, j'ose vraiment croire que dans la communauté expatriée francophone de Houston, je pense vraiment que le taux de césarienne et le taux de césarienne a diminué, le taux d'allaitement a augmenté. Oui, parce que je pense qu'on est beaucoup plus vulnérable par rapport à ça.
Et d'ailleurs, toi, bah, tu en sais quelque chose, hein, parce que tu es expatriée, toi aussi. Donc, tu es arrivée avec ton bébé de 1 an en expat et aujourd'hui, tu as 4 enfants, dont le petit dernier qui est né à la maison. Est-ce que ton expérience d'expatriée a influencé ton regard sur la maternité?
Oui, énormément, parce qu'on arrive dans le pays étranger avec nos peurs. Et en fait, cette peur, finalement, elle a plutôt été positive de mon côté parce que je me suis dit, moi, j'avais très peur d'avoir une césarienne, par exemple, parce que je savais que le taux de césarienne ici aux États-Unis est très, très élevé. Et pour moi, il était juste hors de question d'avoir une césarienne en sachant que j'avais accouché naturellement de ma première. Et donc, du coup, ça m'a vraiment obligée à me renseigner, à fouiller la littérature, à trouver le bon professionnel de la santé qui allait me soutenir dans mon projet de naissance. Et en fait, grâce à ça, ben voilà, je suis vraiment tombée sur des études scientifiques super intéressantes, sur des articles sur la naissance super intéressants, etc. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte que cette possibilité d'accoucher à la maison était vraiment possible et que ce n'était pas dangereux comme je le croyais au début. Et finalement, ben voilà, j'ai changé d'avis en fait. Donc jamais, au grand jamais, je n'aurais accouché à la maison si j'étais restée en Belgique dans mon confort. C'est vraiment l'expatriation et cette peur de certaines choses qui m'a fait en fait complètement changer d'avis et qui m'a ouvert les yeux sur certaines choses en fait. Ouais.
Alors, merci de nous avoir partagé ton évolution professionnelle en expat, Caroline. Et maintenant, j'aimerais que tu nous emmènes avec ta voix, avec tes mots, à Houston, là où tu vis depuis 5 ans déjà. Quelles ont été tes premières impressions en arrivant à Houston ?
Alors, mes premières impressions, c'était waouh ! En fait, j'ai vraiment vécu la courbe de l'expatrié un peu classique où quand on arrive, waouh, tout est nouveau, tout est beau, tout est change, enfin, tout est différent. Donc, c'était l'éclate, si je peux dire ça comme ça. On était hyper contents. Moi, j'étais hyper contente. C'était waouh, en fait. Et ouais. Puis, c'est vrai qu'il y a un petit peu la courbe de l'expatrié hein, où à un moment donné, on tombe un petit peu de haut. Ça s'est plus ou moins arrivé quand j'ai eu ma certification et que je me suis dit, bon, OK, maintenant, je fais quoi avec ce papier? Comment je fais pour me lancer? Là, je suis un peu tombée bas. Et puis, alors après, on remonte petit à petit pour arriver à un niveau encore plus wow. Moi, j'étais vraiment ravie de cette nouvelle expérience. En plus, je me souviens, il faisait super beau tous les jours. Donc, c'était venant de la Belgique, c'était waouh, quoi.
Mais en plus, tu me disais en préparant l'interview qu'il y a une expression qui dit que tout est plus gros au Texas, c'est ça?
Oui, exactement. C'est vrai que tout
donc,
était
c'était gros, ça aussi.
Oui, c'était waouh, quoi. Tous les sens du terme. On arrivait, on avait une grande maison. Oui, tout était plus grand, tout était juste waouh.
Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter?
Je dirais une de mes toutes premières anecdotes. Bon, quand je suis arrivée, je parlais très mal anglais. Et en plus, l'accent texan, ben, autant dire que je ne comprenais rien du tout. Donc ça a été quelque chose de pas évident pour moi. Et donc, on reçoit des amis qu'on avait rencontrés un petit peu avant. Et donc, on les reçoit chez nous un dimanche midi pour un barbecue. Et je me dis, mince, j'ai pas de bière pour l'apéro. Ben, je vais vite aller, c'est dimanche matin, je vais vite aller chercher des bières au grand magasin pour l'apéro, quoi. Ouais. Et donc, j'arrive à la caisse et puis je mets mes bières sur le tapis de la caisse. Et puis là, la dame me dit un truc en anglais. Eh bien, c'est le jour du Seigneur, donc vous ne pouvez pas acheter de bière. Et je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc? Et je râle sur moi-même parce qu'en fait, je me dis, ben, en fait, je comprends pas ce qu'elle me dit, quoi. Et elle me prend mes bières et je me dis, mais mince, mais moi, il me faut mes bières, c'est quoi cette histoire? Et donc, je rentre chez moi, mais vraiment furieuse. Je me dis, eh ben, elle a pris mes bières et je ne sais même pas pourquoi, mais elle a pris mes bières et elle m'a dit, c'est le jour du Seigneur. On peut pas acheter de bière. Je me dis, mais ils sont complètement dingues. C'est quoi ce truc, quoi? Et puis, mon mari me dit, bon, t'as sûrement mal compris. Je dis, ben oui, j'ai sûrement mal compris, ça c'est sûr. Je comprenais pas encore grand chose. Et puis, nos amis arrivent et je leur dis, écoutez, je suis désolée, j'ai pas de bière. Ils m'ont dit que c'était le jour du Seigneur, qu'on pouvait pas acheter de bière. J'ai sûrement rien compris du tout. Enfin, je suis vraiment désolée. On a un apéro au jus d'orange, quoi. Et là, ouais, tout le monde éclate de rire et me dit, mais non, en fait, t'as très bien compris. En effet, le dimanche matin, on peut pas acheter d'alcool. On peut acheter l'alcool à partir, je pense, de 1h de l'après-midi ou quelque chose comme ça. Et donc, enfin voilà, ça, oh, c'était, wow, une de mes premières anecdotes sur place.
Ah oui.
C'était pas mal. Alors après ça, oui, les Américains, ils se lèvent le matin et le dimanche matin, ils vont petit déjeuner au restaurant d'à côté en pyjama et pas encore coiffé. Donc c'est vrai que ça nous a bien fait rire aussi le jour où on se dit, tiens, on n'a pas de petit déj, on va vite aller manger à côté et on voit des familles en pyjama qui sortent du lit. On s'est dit, oulala, où est-ce qu'on est ici?
D'accord.
En tant qu'Européen, bon, ici il fait très chaud, donc c'est vrai qu'il y a des communautés avec des piscines où on va à la piscine. Et c'est vrai que les Américains, ils sont très pudiques.
Ouais.
Mais alors quand on a des jeunes enfants, souvent il y a facilement un enfant qui se promène tout nu au bord de la piscine et enlève son maillot parce qu'il a envie d'enlever son maillot. Et donc voilà. Et donc on a toujours peur de voir son enfant à la piscine qui enlève son maillot. D'accord. Nu à la piscine alors qu'il a 2-3 ans et que c'est pour nous quelque chose, enfin je dis pas de normal, enfin oui, de normal, enfin c'est pas, nous on n'en fait pas tout un plat,
oui,
mais ici on fait très attention à ce que son enfant ne se promène pas tout nu devant les Américains, donc ça c'est toujours un petit peu le petit stress.
D'accord.
Donc voilà, et alors oui, peut-être une dernière anecdote qui nous a fort frappé aussi. Donc, on venait d'emménager et en fait, le samedi matin, on entend des bruits de pistolets, des bruits de fusils, enfin des bruits des pans, quoi. On se dit,
c'est
quoi ? C'est
effrayant.
C'est quoi ce truc ? Oui, ça faisait peur. Vraiment, je sors de chez moi et j'entends pan, pan. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Ben, en fait, le week-end, les Américains, enfin en tout cas ici au Texas, ils vont au shooting, quoi. Enfin, ils vont s'exercer à tirer. Et donc, on était à côté, enfin pas très loin d'un centre de tir. Et en fait, on entendait la résonance du centre de tir qui était à quelques centaines de mètres de chez nous. Donc ça, c'était assez impressionnant.
Oh, oui, ça doit être très impressionnant, en effet. Enfin, certains auditeurs qui connaissent les États-Unis, peut-être, auront d'autres anecdotes à partager sur les réseaux sociaux à ce propos.
Oui.
Et par rapport à Houston, si tu devais résumer Houston en 3 mots, tu dirais quoi ?
Alors, je me suis permise de mettre 4 mots.
4 mots, bah, d'accord.
Alors, j'ai mis facile, ensoleillé, sans limite et grand.
Mm-hmm.
Alors, grand, ben, on en a parlé, hein, tout est plus grand, ouais, ici. Ensoleillé, bah, il fait tout le temps beau, donc ça c'est vraiment le côté génial de Houston. Il peut, oui, y avoir un orage, bon c'est très, très chaud, très humide, mais après un orage il y a toujours le soleil, donc il y a une luminosité vraiment incroyable ici, donc ça c'est très très agréable. Tout est facile ici, on a 4 enfants, bah, où qu'on aille, tout est adapté aux enfants. Quand on a besoin d'un rendez-vous, on peut avoir un rendez-vous facilement. Quand on appelle pour un rendez-vous médecin, ben, on l'a dans les quelques jours. On ne doit pas attendre des mois avant de pouvoir faire sa radio ou son scanner.
Ah ouais.
Tout est facile. Les magasins sont ouverts quasiment 24 heures sur 24. Donc, si on oublie un truc, ben, voilà, on va vite le dimanche matin ou même le dimanche soir chercher ce qui nous manque. Enfin, voilà, la vie est vraiment facile. J'ai peut-être envie de rajouter quand on est du bon côté de la barrière. Je pense que c'est important. Et alors, c'est une ville où c'est no limits. Tout est possible, en tant que développement personnel, mais en tant que développement professionnel. Avec une idée, ben, peu importe l'idée, tout le monde nous dit que c'est possible et qu'on doit y aller. Et que, enfin, il n'y a pas de limite. Enfin, tout est possible ici. Ils sont très enthousiastes, les Américains. Donc ça, c'est très, très chouette. C'est très, très agréable à vivre.
Est-ce qu'il y a une communauté française importante à Houston ?
Alors, il y a une très grosse communauté francophone à Houston. Et j'ai envie de rajouter une très grosse communauté internationale, parce qu'ici, c'est une des villes de l'oil and gas. C'est vraiment le pétrole. Et donc, il y a vraiment des gens de partout, 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 partout. Et ça, c'est vraiment génial, parce que autant on peut se rattacher à la communauté francophone qui est très active, qui organise plein d'activités, Donc, c'est vraiment super et qui est plein de bons conseils aussi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On peut vraiment se reposer sur cette communauté francophone pour trouver toutes les informations dont on a besoin. Et alors, c'est très gai aussi, de, bah, aussi d'aller voir un petit peu, de découvrir les autres nationalités. Et il y a vraiment une très grosse communauté d'expatriés du monde entier. Je prends l'exemple, j'habite dans une rue en cul-de-sac et en fait, on vient tous de pays différents, quoi. C'est très, très enrichissant.
Est-ce qu'il y a des groupes Facebook que tu aurais à nous conseiller ?
Alors oui, sur Houston, mais par exemple, il y a le Houston French Gang, qui est une ressource incroyable sur laquelle on peut, poser n'importe quoi comme question. Et alors, il y a tous les groupes Facebook des expatriés francophones autour du monde. Hop, là, on entend ma petite louloute.
Oui, c'est bientôt fini, je te rends ta maman.
Tous ces groupes Facebook de maman expatriée à l'étranger, de ma grossesse, ma maternité à l'étranger, expat parents, ce sont vraiment tous des groupes Facebook que j'ai découverts au fil des mois, au fil des années, avec l'expatriation, qui sont d'une ressource, en tout cas qui pour moi ont été d'une ressource incroyable.
Alors, toute dernière question. Quel conseil tu donnerais à une famille qui viendra s'installer à Houston ? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de partir, qui t'aurait facilité la vie, que tu as envie de transmettre ?
Ouais, alors moi j'aurais aimé savoir qu'une expatriation, ça peut se préparer bien à l'avance. Mm-hmm. Nous on n'avait absolument rien préparé, donc on partait vraiment mais tête baissée, tout à fait très naïvement. Je trouve qu'à l'heure actuelle, maintenant, et en 5 ans, il y en a beaucoup qui sont sortis. Il y a plein de livres qui sont sortis sur l'expatriation, sur le fait d'être maman en expatriation. Enfin, maintenant, il y a vraiment énormément de ressources là-dessus. Et j'aurais voulu connaître tous ces groupes Facebook que moi, j'ai vraiment découverts au fil des années, en fait. Et c'est marrant parce que là, on va probablement faire une deuxième expatriation. On ne sait pas encore très bien où ni quand. Mais je disais à mon mari, mais ça va être beaucoup plus simple parce que maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne. Je connais tous ces groupes. Si on va à tel endroit, ben hop, je sais que je me connecte directement au groupe francophone sur place. J'ai les groupes Facebook sur lesquels je peux déjà poser des questions. Enfin, ça va vraiment être complètement différent que cette première fois où on est vraiment arrivé la tête dans le guidon sans rien connaître, quoi.
Non, mais complètement. Enfin, comment on faisait avant ? Comment faisaient les expatriés d'avant, hein? C'était encore plus difficile pour eux. Nous, c'est vrai qu'on peut préparer son expatriation, poser des questions pendant son expatriation. On peut écouter des podcasts.
Exactement.
Pour préparer son expatriation. Et on peut aussi se réinventer professionnellement grâce au monde digital. Et tu l'as montré, tu continues à le montrer, Caroline, avec ton activité au sein En Douceur. Donc, merci d'avoir témoigné et je te souhaite une très belle continuation. Je te laisse retourner à ta petite.
Merci beaucoup en tout cas pour ce podcast. Ben, c'est vraiment un plaisir de partager mon expérience parce que voilà, si je peux apporter ce petit quelque chose à toutes ces mamans, futures mamans et même tous les expatriés qui se disent mais comment je vais faire personnellement et professionnellement, ben voilà, je trouve que j'aurais aimé voilà, connaître ce genre de podcast, de groupe Facebook, etc. Avant ma première expatriation. Mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc du coup, je suis contente d'amener cette petite chose à l'édifice.
Merci d'avoir participé, Caroline. Je te souhaite une très belle continuation à Houston. Et puis, plus tard, pour ta nouvelle expatriation, tu partiras de toute manière avec ton projet professionnel et ça, c'est formidable.
Exactement, et sans recommencer à zéro, en fait. Donc, c'est ça qui est juste incroyable. C'est que je pars vraiment sereinement parce qu'il n'y a rien qui va changer, en fait. Ça ne se verra même pas de l'extérieur. Donc, c'est ça qui est vraiment incroyable à l'heure actuelle avec tous ces réseaux sociaux et tout ce digital. Ça, c'est vraiment génial.
Merci, Caroline. À très bientôt.
Oui, à bientôt. Au revoir.
L'épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou tout simplement de le recommander à vos amis. Vous pouvez aussi m'aider à payer les frais d'hébergement en versant une somme mensuelle ou ponctuelle sur la plateforme Tipeee. En attendant le prochain épisode, continuez à développer vos super pouvoirs et osez jour après jour. À bientôt !